Je parle de Spinoza et nous, ce qui a l'air d'un titre trop ambitieux. Mais ça peut vouloir dire beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire, entre autres, nous, au milieu de Spinoza. Essayer de percevoir et de comprendre Spinoza par le milieu, c'est une tâche possible. Généralement, on commence par le premier principe d'un philosophe. Mais ce qui compte, tout le monde le sait, c'est aussi bien le troisième, le quatrième, le cinquième principe. Commencer par le premier principe, c'est un peu une méthode qui emprunterait le modèle de l'arbre. On cherche d'abord la racine. Mais il y a une autre méthode, ou un autre modèle, c'est celui de l'herbe. L'herbe, elle pousse par le milieu. Quand un philosophe est aussi déraciné que Spinoza, on peut essayer de le percevoir par le milieu, la même où pousse sa philosophie. Tout le monde connaît le premier principe de Spinoza. Une seule substance pour tous les attributs. Et le troisième, quatrième ou cinquième principe, peu importe. Tout le monde le connaît aussi. C'est, cette fois, une seule nature pour tous les corps. Une seule nature pour tous les individus. Une nature qui est elle-même un individu dont les parties varient d'une infinité de façons. Non, c'est pas la même chose. Je veux dire, ce n'est plus comme au niveau du premier principe. L'affirmation d'une substance unique, c'est plutôt maintenant l'étalement d'un plan commun, l'étalement d'un plan d'immanence où sont tous les corps, toutes les âmes, tous les individus. Ce plan d'immanence, ce plan de consistance, comme dit Guattari, ce n'est pas un plan au sens de plan dans l'esprit, même si c'était l'esprit d'un dieu. Ce n'est pas un plan au sens de projet ou de programme. C'est un plan au sens géométrique, section, intersection, diagramme et pas programme. Alors, être au milieu de Spinoza, surgir au niveau du troisième, quatrième, cinquième principe, c'est être sur ce plan, ou plutôt c'est s'installer sur ce plan, parce que ça ne se fait pas tout seul. C'est déjà un mode de vie, c'est déjà une façon de vivre. Donc, qu'est-ce que c'est ce plan d'immanence? Et comment le construit-on? Parce qu'à la fois, il est pleinement immanent et d'une certaine manière déjà là. Il est plan de nature. Et la nature, elle ne nous a pas attendus. Et pourtant, il doit être construit. Il doit être construit par chacun, individu ou groupe. Pour qu'on ait une chance de vivre, si c'est utile, pour qu'on ait une chance de vivre d'une manière spinoziste. Eh bien, je voudrais demander d'abord, en fonction de ce plan, comment Spinoza définit un corps. Et là aussi, tout le monde le sait, un corps quelconque, Spinoza le définit de deux façons simultanées. D'une part, un corps, si petit qu'il soit, comporte toujours une infinité de particules. Et ce sont les rapports de repos et de mouvement, de vitesse et de lenteur entre particules qui définissent un corps et l'individualité de ce corps. D'autre part, un corps en affecte d'autres, il affecte d'autres corps et il est affecté par d'autres corps. Et c'est ce pouvoir d'affecter et d'être affecté qui définit aussi le corps dans son individualité. En apparence, ce sont deux propositions très simples, très courantes et puis même tout à fait ordinaires. L'une est une proposition cinétique, consistant à définir un corps par les rapports de vitesse et de lenteur entre ses particules. L'autre est une proposition dynamique consistant à définir un corps par son pouvoir d'affecter et d'être affecté. Mais je voudrais essayer de montrer que si on s'installe vraiment au milieu de ces propositions, si on les vit d'une certaine manière, involontaire ou pas, plutôt involontaire, ça devient beaucoup plus compliqué. Et on se retrouve spinoziste avant même d'avoir compris pourquoi. En effet, la première proposition, la proposition cinétique, nous dit qu'un corps se définit par des rapports de mouvement et de repos, de lenteur et de vitesse entre particules, qui lui appartiennent sous le rapport complexe de ces lenteurs et vitesses. C'est-à-dire, un corps ne se définit pas par une forme ou des fonctions. La forme globale, la forme spécifique, les fonctions organiques dépendront des rapports de vitesse et de lenteur. Même le développement d'une forme, le cours du développement d'une forme, dépend de ces rapports et non l'inverse. Ce n'est pas du tout qu'il s'agisse d'être rapide à tout prix. La vitesse, elle ne vaut pas mieux que la lenteur. Il arrive même qu'on soit en retard par vitesse. Il arrive aussi qu'on gagne et qu'on l'emporte par lenteur. Mais l'important, c'est de concevoir la vie. Chaque vivant, chaque individualité de vie, non pas comme une forme ou un développement de forme, mais comme un rapport complexe entre vitesses différentielles, entre ralentissement et accélération de particules. Et après tout, c'est ça qu'on appelle ou bien le charme, ou bien l'individualité, ou bien la puissance de quelqu'un. Pas du tout sa forme, mais sa manière de composer des vitesses et des lenteurs sur un plan d'immanence. Car le plan d'immanence, le plan de consistance, il surgira lorsque des vitesses et des lenteurs se composeront sur lui et en même temps que lui, indépendamment des formes, car c'est ces rapports qui détermineront les formes et pas l'inverse. C'est comme la musique. Il n'y a pas de forme, il peut y en avoir, mais ce n'est pas ça qui compte. Il n'y a pas de forme préétablie, il n'y a pas de forme musicale préétablie. Il n'y a pas un développement de la forme musicale d'après un temps qu'on devrait nommer mesuré, fonctionnel ou pulsé. Danser la valse, ce n'est jamais 1, 2, 3. Faire du tam-tam, ce n'est pas 1, 2. Il y a toujours 7, 10, 14, 28 en premier. Et la forme musicale, le développement de la forme, dépend d'un rapport très complexe entre vitesse et lenteur des particules sonores, non pas l'inverse. C'est pas seulement affaire de musique, c'est toujours affaire de vivre. C'est par vitesse et lenteur qu'on se glisse entre les choses, qu'on entre dans quelque chose, qu'on se conjugue avec d'autres choses. On ne commence jamais rien, on ne fait jamais table rase. Spinoza le sait, Descartes ne le savait pas. On ne commence jamais, on ne fait pas table rase, on se glisse entre, on entre au milieu, on épouse ou on impose des rythmes non pulsés. Ça, c'est la première proposition cinétique de Spinoza. La seconde proposition dynamique, qui concerne les corps, ne concerne pas les rapports de vitesse et de lenteur entre particules, mais concerne les pouvoirs d'affecter et d'être affecté. Et d'une certaine manière, c'est la même chose. Et Spinoza, dans un très beau texte, démontre, très rigoureux, bon, il démontre que nécessairement, si l'on définit les corps par des rapports de vitesse et de lenteur, on est aussi forcé de les définir dynamiquement par des pouvoirs d'affecter et d'être affecté. Et que le passage est inévitable. Le lien est nécessaire. Donc, c'est bien la même chose, la proposition cinétique et la proposition dynamique. Vous ne définirez pas un corps ou une âme par sa forme, par ses organes ou ses fonctions. Et, c'est sans doute ça qu'apporte de nouveau la proposition dynamique, vous ne la définirez pas davantage comme une substance ou comme un sujet. Chaque lecteur de Spinoza sait que les corps et les âmes ne sont pas pour Spinoza des substances, ni des sujets, mais qu'il les appelle des modes. Seulement, si on se contente de penser une pareille proposition théoriquement, c'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Parce que concrètement, un mode, c'est un rapport complexe de vitesse et de lenteur dans le corps et aussi dans la pensée qui correspond à ce corps. Et un mode, c'est un pouvoir d'affecter et d'être affecté du corps ou de la pensée. Concrètement, si vous définissez les corps et les pensées comme des pouvoirs d'affecter et d'être affecté, beaucoup de choses changent. Vous allez définir un animal, ou bien un homme, pas du tout par sa forme, pas du tout par ses organes et ses fonctions, et pas non plus comme un sujet. Vous allez le définir par les affects dont il est capable. Capacité d'affect, avec un seuil maximal et un seuil minimal. Ce que la bête peut supporter, ce qu'elle est capable de supporter, les affects dont elle est capable, au plus haut et au plus bas. Avec sans doute des variations d'après les âges, les moments, les capacités d'affect. C'est une notion très courante chez Spinoza et qui parcourt toute l'éthique. Prenez un animal quelconque. Vous ne vous occupez de rien d'autre que la liste des affects dont vous pouvez en dresser. Les enfants savent le faire, ça. Mais s'il y a un philosophe enfant, c'est Spinoza, c'est pas Héraclite, sûrement pas. S'il y a un philosophe qui a un devenir enfant, c'est Spinoza. Peut-être. Les enfants savent le faire. Le petit Hans, qui fut si mal psychanalysé par Freud, ne faisait que ça. Et le petit Hans fait une liste d'affects à propos d'un spectacle de la rue, à savoir un cheval de trait qui tire une voiture dans la ville. Et la liste qu'il fait au hasard, ça dans n'importe quel ordre, c'est une bête fière. La fierté, c'est une, non seulement un affect, c'est une capacité d'affect. Il est fier. Il a des œillères. c'est un affect d'une toute autre sorte. Il a du noir autour de la bouche. Il tire une charge lourde. Il s'écroule. Il est fouetté. Être fouetté, c'est un affect. C'est même ce que Spinoza appellerait un affect passif. Il est fouetté. Il fait du charivari avec ses jambes, etc. Et la liste continue. Bien. Spinoza, pour son compte, dit, mais j'aurais pu inverser les citations. Spinoza, pour son compte, dit, il y a de plus grandes différences entre un cheval de labour ou de trait, d'une part, et d'autre part, un cheval de course, qu'il n'y en a entre un cheval de labour et un bœuf. C'est une proposition très très importante dans l'éthique, ça. C'est parce que le cheval de course et le cheval de labour n'ont pas les mêmes affects et pas le même pouvoir d'être affectés. Tandis que le cheval de labour et le bœuf ont des affects relativement communs. C'est important parce que on voit bien alors que le plan d'immanence, où se déroule la distribution des affects comme la distribution des vitesses différentielles, des vitesses comparées, on voit bien que le plan d'immanence, le plan de nature, ne consiste pas du tout à séparer des choses dont on pourrait dire que les unes sont naturelles et dont on pourrait dire que les autres sont artificielles. L'artifice fait complètement partie de la nature, puisque toute chose, sur le plan immanent de nature, sur le plan de consistance, se définit par les agencements de mouvements et d'affects dans lesquels elle entre, que ces agencements soient les plus artificiels ou les plus naturels. Longtemps après Spinoza, des biologistes ou des naturalistes essaieront de décrire ce qu'ils appellent des mondes animaux, uniquement définis par des affects, des pouvoirs d'affecter ou d'être affecté. Par exemple, von Uxküll le fera pour la tique, animal qui suce le sang des mammifères. Il définira cet animal-là, cette bête-là, par trois affects. Et ce n'est pas sa faute, elle n'en a que trois. Mais c'est déjà beaucoup. Il y en a beaucoup parmi nous qui en ont. Enfin, il y a beaucoup de gens qui en ont. Trois affects. Le premier, un affect de lumière, grimper en haut d'une petite branche. Le deuxième, un affect olfactif, se laisser tomber sur le mammifère qui passe sous la branche. Le troisième, un affect calorique, calorifique. Chercher la région sans poils sur le mammifère, la région plus chaude où il va pouvoir s'enfoncer et trouver le sang. Un monde avec trois affects uniquement, alors que la tique baigne dans la forêt immense qui ne cesse d'envoyer des excitations, des sollicitations de tous les côtés, et à tout, elle est fermée, elle est sourde, elle est aveugle, elle est sans affect, sauf pour ces trois choses-là, le reste du temps, elle jeûne, elle dort. Donc, un seuil optimal et un seuil pessimal, un seuil maximal, un seuil minimal dans le pouvoir d'être affecté. Pas forcément que ce soit très bon, le seuil optimal, c'est aussi bien la tique repue de sang qui va mourir. Le seuil pessimal ou minimal, c'est la tique qui jeûne, qui peut attendre des années le mammifère qui va passer sous sa petite branche. Or, de telles études qui définissent les corps, les animaux, mais aussi les hommes, par les affects dont ils sont chacun capables, ont fondé ce qu'on appelle aujourd'hui éthologie. Et ça vaut pour nous, ça vaut pour les hommes, non moins pour les animaux, parce que personne ne sait d'avance les affects dont il est capable. C'est une très longue affaire d'expérimentation, c'est une très longue affaire de rencontre, c'est une très longue affaire de de montage. C'est une longue prudence. C'est une sagesse spinoziste. La page la plus drôle de Spinoza, chez Spinoza il y a toujours des pages, chez tous les philosophes, il y a des grandes pages comiques, c'est lorsque Spinoza explique ce que c'est que l'aventure de Adam et l'histoire de la pomme, et que c'est l'histoire d'un empoisonnement, que c'est l'histoire d'une intoxication alimentaire, et que Adam a mangé la pomme, et que les rapports constitutifs de la pomme décomposaient les rapports constitutifs d'Adam, que Adam a été à la lettre empoisonné, il a fait une mauvaise rencontre. C'est de l'éthologie. Or, je dis que savoir les affects dont on est capable, les affects que l'on peut supporter, qu'on est capable de supporter, personne ne le sait d'avance. Et que cela ne peut se découvrir qu'en même temps ce que se construit précisément, un plan d'immanence ou un plan de consistance. L'éthique de Spinoza n'a rien à voir avec une morale. Et il la conçoit lui-même comme une éthologie, c'est-à-dire comme, à la fois, une composition des vitesses et des lenteurs, une composition des pouvoirs d'affecter et d'être affecté sur un plan d'immanence. Voilà pourquoi Spinoza, d'une certaine manière, lance assez constamment des cris. Vous ne savez pas ce dont vous êtes capable en bon ou en mauvais. Vous ne savez pas d'avance ce que peut votre corps ou votre âme. Vous ne savez pas d'avance ce que peut un corps quelconque ou une âme. Dans telle rencontre, dans tel agencement, dans telle combinaison. Je voudrais essayer de résumer. Si l'on est spinoziste, on définit quelque chose ni par sa forme, ni par ses organes et ses fonctions, ni comme substance ou comme sujet. Pour emprunter des termes au Moyen-Âge ou à la géographie, on définirait un corps par une longitude et une latitude. Un corps, ça peut être strictement n'importe quoi. Ce peut être une chose, ce peut être un animal, ce peut être un corps sonore, ce peut être une âme ou une idée, ce peut être un corpus linguistique, ce peut être un corps social, une collectivité. Nous appelons longitude d'un corps quelconque l'ensemble des rapports de vitesse et de lenteur, de repos et de mouvement entre particules qui le composent sous ce rapport complexe. Et nous appelons l'attitude d'un corps l'ensemble des affects qui remplissent ce corps à chaque moment sous le double aspect de son pouvoir d'affecter et d'être affecté. Ainsi, nous établissons une espèce de cartographie d'un corps, et l'ensemble de toutes les longitudes et de toutes les latitudes constitue le plan d'immanence ou plan de nature, le plan de consistance, toujours variable à chaque moment, et qui ne cesse pas d'être remanié, construit, reconstruit par les individus et les collectivités. Alors, voilà ce que je voudrais dire très vite et sommairement et insuffisamment. Peut-être est-ce qu'il y a deux manières très très différentes, très opposées, de concevoir le mot « plan » ou l'idée de plan, même si les deux idées ne cessent pas de se mélanger, même s'il y a un bout de l'une qui vient s'insérer dans un bout de l'autre. Il s'agit bien de planification, mais de deux planifications très 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 hétérogène. La première conception, je l'appelle, mais par pure commodité, théologique ou transcendante. La deuxième conception, je l'appelle spinoziste. Celle d'un homme tout seul contre les pouvoirs du monde, ou bien celle d'un groupe quelconque contre un ordre établi. En même temps, c'est pas si simple, c'est-à-dire je regrette en même temps ce que je viens de dire, parce que un homme quelconque ou un groupe peut très bien verser, il ne fait même que ça, dans le plan théologique, passer du côté du plan théologique. Et inversement, le monde peut être traversé, il peut être recoupé par un plan surprenant et qui nous prend tous de court. Mais, mettons, j'appelle plan théologique, première conception du plan, tout plan qui, d'une manière ou d'une autre, vient d'en haut et qui se rapporte à une transcendance, si cachée que soit cette transcendance. C'est un dessein dans l'esprit d'un Dieu, mais ça peut être aussi bien une évolution, un plan d'évolution dans les profondeurs supposées de la nature, ou encore l'organisation de pouvoir d'une société. Un tel plan peut être structural ou génétique. Il peut être les deux à la fois. Ce à quoi on le reconnaît, un tel plan, théologique ou transcendant, c'est que il concerne toujours des formes et leur développement, des sujets et leur formation. Développement de formes et formation de sujets. C'est le caractère essentiel de cette première sorte de plan. Dès lors, ce sera toujours, et quoi qu'on en dise, un plan de transcendance. Et pour une raison très simple, c'est parce que ce plan, par nature, disposera toujours d'une dimension supplémentaire aux dimensions de ce qu'il planifie et de ce qui se passe sur lui. C'est en ce sens que certains musiciens, pour reprendre une allusion que je faisais tout à l'heure, nous disent que, peut-être sinon pas raison, mais nous disent que la musique occidentale a été longtemps sous le principe, le principe d'une espèce de plan de composition qui n'était jamais donné, qui donnait lui-même des formes à entendre et qui dirigeait le développement des formes, mais lui, en tant que principe compositionnel, il n'était jamais donné dans ce qui était donné. Il devait toujours être inféré à partir de ce qui était donné, conclu de ce qui était donné, induit à partir de ce qui était donné, mais n'était pas donné comme tel. Je dis que l'autre sorte de plan, c'est le plan d'immanence. Et le plan d'immanence, lui, il ne peut pas disposer, et c'est sans doute ça sa force et sa puissance, il ne dispose jamais d'une dimension supplémentaire aux dimensions de ce qui se passe sur lui. Au contraire, comme certains musiciens modernes se réclament d'un processus compositionnel qui doit être donné pour lui-même en même temps que ce qu'il donne, qui doit être entendu pour lui-même en même temps qu'il nous fait entendre quelque chose. Comme si à ce moment-là, il y avait un plan de consistance, un plan d'immanence sonore, où les choses et où le mouvement n'est plus que rapport de vitesse et de lenteur, distribution d'affect, indépendamment d'une forme qui se développe ou d'un sujet et d'un caractère qui serait assignable. Je pense que beaucoup de musiciens américains, à cet égard, actuellement, développent un tel plan d'immanence sonore où le processus de composition doit être saisi en même temps que ce qui est composé. Je pense que sont très importantes aujourd'hui certaines déclarations de Boulez. Lorsque Boulez réclame au besoin des formes musicales intrinsèquement pauvres, de plus en plus sobres, de telle manière que puisse en échapper. Des rapports de vitesse et de lenteur entre particules sonores, avec de fortes charges affectives, ou comme il dit lui-même, et c'est la même chose, émotives. Les textes de Boulez sont très admirables à cet égard, pour le développement d'une espèce de plan d'immanence sonore dans la musique. C'est pareil pour la littérature. Il ne s'agit pas d'écrire vite ou d'écrire lentement. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit que l'écriture soit elle-même production de vitesse ou production de lenteur, qu'elle produise des vitesses et des lenteurs nouvelles. Revenons au passé. Goethe s'oppose d'une certaine manière à Kleist. Hegel s'oppose d'une certaine manière à Hölderlin. Parce que Goethe et Hegel restent attachés, je crois, très profondément à une conception du plan qui serait un plan de développement des formes et un plan de formation des sujets, allant jusqu'à une espèce d'éducation sentimentale, de formation du caractère. Tandis que Kleist, Hölderlin, ne pense plus qu'en termes de vitesse et de lenteur, de catatonie figée, véritable catatonie, d'immobilisation figée, et puis de mouvements accélérés, de précipitations aux besoins grimaçantes, sans qu'on puisse même assigner une forme qui se développerait, ni un caractère qui se formerait. Tout est devenu un jeu de vitesse, de lenteur, de catatonie brusque, d'accélération folle. Je crois que c'est une littérature extrêmement moderne en ce sens, mais si je demande qui est spinoziste, enfin, c'est pas comme ça, il me semble, ce n'est pas Goethe qu'il est. Ce n'est pas Hegel qu'il est. Parce que le plan tel qu'ils le conçoivent reste un plan du développement de la forme et de la formation du sujet. Mais les vrais spinozistes, c'est Kleist, c'est Hölderlin. Parce que chez eux, le plan a changé complètement de nature, d'où l'incompréhension radicale de Goethe à l'égard de ce qui se passe à ce moment-là. Et même sa haine à l'égard de ce qui se passe à ce moment-là. Car le plan est devenu chez eux un plan qui n'est plus que une planification des vitesses et des lenteurs, des vitesses différentielles et une distribution des affects non subjectivés. Or, bien sûr, en même temps, je durcis parce que les deux sortes de plans, ils sont toujours mélangés. On arrache l'un à l'autre, on maintient l'un sous l'autre, on conquiert l'un contre l'autre et puis on garde quand même l'autre. Reste qu'il y a une grande différence économique, politique, artistique entre un plan d'organisation transcendant qui mène le développement des formes et la formation des caractères ou des sujets et d'autre part un plan d'immanence ou un plan de consistance qui procède uniquement par vitesse et lenteur comparées, par distribution d'affects indépendamment des sujets. Ce n'est pas la même musique. Ce n'est pas la même politique, ce n'est pas la même philosophie. Chacun doit construire son plan d'immanence du second point de vue, vitesse et affect. Chacun peut le concevoir et le vivre, individu ou groupe. C'est un plan qui se construit morceau par morceau. Je crois qu'il y a beaucoup de spinozisme dans la littérature actuelle ou dans la littérature récente, dans la musique actuelle, dans les mouvements actuels, encore plus que dans la philosophie actuelle. Les vrais spinozistes, au besoin, ce sont des musiciens qui font un plan d'immanence sonore. Ce sont des littérateurs qui font un plan d'immanence verbale. C'était déjà Lawrence, Virginia Woolf, Whitman, Kerouac, beaucoup d'Anglais et d'Américains ont été naturellement spinozistes par nature, avant de le savoir, sans le savoir, ce n'était pas leur affaire. Parce que spinoziste, on le devient forcément sans le savoir. On arrive au milieu. C'est vraiment la place unique de Spinoza en philosophie. La construction d'un plan d'immanence fait de vitesse et de lenteur et d'affect. Un point, c'est tout. Je voudrais dire, pour terminer, que, à mon avis, comme M. Gouguet avait la très très grande gentillesse de rappeler qu'en effet, j'avais fait un travail sur Spinoza, à mon avis, je n'avais fait sur Spinoza qu'une seule découverte et encore vraiment toute petite. C'était mon impression que le livre de Spinoza, L'Éthique, avait comme une double composition. C'est une bêtise de dire que le livre multiple, le livre à composition multiple, c'est une découverte d'aujourd'hui et que ça caractérise la littérature moderne. La littérature moderne, elle a sûrement des nouveautés, mais pas celle-là. En un sens, il n'y a jamais eu de littérature que faite sous la forme d'une espèce de composition multiple et de lecture plurielle. Or, ce qui me frappait dans L'Éthique, c'était ceci. Tout le monde sait que c'est un livre qui se présente sous forme d'un enchaînement géométrique comportant définitions, postulats, axiomes, propositions, démonstrations, corollaires, et aussi des choses très spéciales qu'on appelle scoli. Et j'avais le sentiment que, bizarrement, il y avait deux éthiques simultanées. Il y avait deux éthiques simultanées parce que on pouvait faire un enchaînement continu des définitions, propositions, démonstrations, corollaires. Ça allait très bien, que ça formait une espèce de chaîne d'enchaînement continu. Et que les scoli, c'était un autre domaine. C'était une autre version simultanée de l'éthique. Que les scoli, eux, renvoyaient à d'autres scoli et formaient non pas un enchaînement continu, mais une espèce de chaîne beaucoup plus volcanique, une chaîne discontinue. Si bien qu'à ce niveau, l'éthique pouvait être lue deux fois simultanément si l'on prenait la chaîne discontinue des scoli et l'enchaînement continu. Et que ce n'était pas la même distribution de vitesse et de lenteur et que ce n'était pas la même distribution des affects dans les deux cas. Alors je crois que il faudrait presque concevoir, comprenez, il y a une musique, je suppose, il y a une musique électronique. Les déclarations auxquelles j'ai fait allusion des musiciens, de certains musiciens américains actuels en faveur d'un plan d'immanence sonore où le principe de composition n'est plus caché mais vraiment donné dans ce qu'il donne. Ou bien les déclarations de Boulez sur une espèce de plan d'immanence où la forme musicale devient pauvre par rapport au rapport de vitesse et de lenteur et à la distribution des affects sonores. Eh bien, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait étranger. Et Boulez lui-même, là, à cet égard, cite les questions de vitesse et de lenteur dans la musique électronique. Il y a aussi une histoire de la philosophie électronique. Il y a aussi une philosophie électronique. Là, je voudrais faire hommage à André Robinet d'avoir introduit véritablement et d'avoir, d'une certaine manière, renouvelé l'histoire de la philosophie et précisément en y introduisant des méthodes à proprement parler électroniques. Et je me dis que si je faisais partie de son équipe, moi, je lui demanderais si c'est possible de, avec des ordinateurs ou avec des procédés comme il emploie pour faire cette histoire de la philosophie un peu électronique, on ne pourrait pas vérifier, non pas seulement les thèmes de fréquence dont il parle si bien, mais les vitesses différentielles, les rapports, est-ce que c'est vrai que les scoli forment une espèce de chaîne volcanique discontinue, tandis que les propositions, les démonstrations, etc. Tout ça pour réussir une chose comme ça, il faut des machines. Donc, une histoire de la philosophie machinique, comme une musique machinique, c'est... Et après tout, je veux dire, tout ne passe pas par là, parce que c'est aussi ce qui se passe. Je veux dire, la construction actuelle ou la recherche actuelle de plans d'immanence, aussi bien sonores, musicaux, littéraires, collectif, politique, artistique, de telle manière que, réellement, les formes cèdent la place aux problèmes cinématiques des rapports vitesse-lenteur à tel moment. Les sujets et les caractères, la pédagogie des sujets et des caractères cèdent la place au problème de la distribution des affects, des pouvoirs d'affecter, d'être affecté. Tout cela, il me semble, traverse tout notre monde. Et on s'y retrouve de moins en moins dans ces constructions de plans d'immanence. Mais d'une certaine manière, c'est comme ça aussi qu'on se retrouve de plus en plus spinoziste.